Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur VOA Afrique, c'est à votre avis votre programme interactif qui commence, Eric Manelakiza. Avec vous, ce soir nous parlons de la Tunisie qui a annoncé des mesures pour améliorer la situation des étrangers et faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Les autorités ont en premier lieu décidé de délivrer des cartes de séjour d'un an aux étudiants ressortissants de pays frères africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Elles ont aussi décidé de prolonger les attestations de résidence de 3 à 6 mois. Ces mesures sont prises après des agressions et des manifestations d'hostilité à leur encontre suscitées par un discours virulent du président Kais Saied dénonçant l'immigration clandestine. Et la Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. La banque juge complètement inacceptable les propos du président Kais Saied. Nous avons notre premier auditeur en ligne, Charles Bazema. Charles, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous les membres.
Voilà, vous avez suivi ce qui se passe en Tunisie avec cette situation des migrants. Des nouvelles mesures, est-ce que elle vous rassure?
Moi, à vrai dire, ça ne me rassure pas. C'est-à-dire, quelles que soient les mesures que le président va prendre ou que les autorités vont prendre, je veux dire que ce qui est dans la tête des rafis, excusez-moi le terme, des rafis, ça va rien changer. Voilà, parce que ces gens se disent déjà qu'ils sont au-dessus des lois. Voilà, donc, quelque chose, c'est qu'on va mettre en place, ces gens, ça ne va pas changer leur manière de faire. Maintenant, moi, je crois que c'est le. Parce que si on avait appris à ces gens qu'être noir, jaune, blanc, c'est la même, nous sommes tous des humains, je crois qu'on n'allait pas avoir ce genre de situation dans le pays. Mais malheureusement, moi, je crois que l'éducation a failli à quelque part. Voilà. Et les autorités n'appuient pas. Et puis, malheureusement, c'est un de leurs autorités, encore pire, le président même. Voilà, qui a eu la manière de parler ainsi. Donc, ça veut dire que ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, moi, je n'en veux pas à ces gens-là. Oui, je n'en veux pas à eux. Parce qu'ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Nous aussi, nos dirigeants aussi, doivent travailler pour arriver là où ces gens-là sont. C'est pour dire quoi? Je sais qu'on ne peut pas tout régler dans nos pays. Dans les pays dits, les grandes puissances aussi, ils ont des problèmes de chômage. Ils ont des problèmes, mais par rapport à nous, ça fait 60 ans, la Tunisie a été colonisée, comme le Burkina Faso, le Mali et autres. Mais pourquoi ces gens-là ont pu se développer? Voilà. Donc, c'est ça la vraie question. Voilà, ça c'est là, ce que le président a dit, c'est là qui cache la forêt. Même l'Algérie aussi, excusez-moi de vous cette parenthèse, l'Algérie aussi ramasse, excusez-moi aussi le terme, ramasse nos frères migrants. Ils viennent, ils les jettent dans le désert. Mais jusqu'à présent, personne n'en parle. Voilà, mais lui, le président tunisien, lui, il a parlé, et voilà, tout le monde condamne. Mais l'autre aussi fait pire. Voilà, nous avons des amis qui sont allés en Algérie, mais ils viennent nous dire d'autres choses, ils viennent nous dire ce que vraiment ils ont suivi là-bas. Moi, je crois que c'est à nous les Africains, à la peau noire. Parce que ces gens-là ne se considèrent pas comme des Africains. Je ne dis pas eux tous, il y a d'autres qui sont compréhensibles, mais il y a d'autres qui ne se disent même pas qu'ils sont des Africains. Ils se disent arabes, musulmans. Donc, moi, je les considère. Ces gens-là ne se prennent pas comme des Africains, mais c'est à nous, dirigeants, de travailler. On n'a pas dit qu'ils peuvent tout faire en même temps, mais au moins qu'ils nous donnent le minimum pour que nous puissions vivre. Vous êtes sans savoir que quand les dirigeants sont malades, ils passent se faire soigner dans les pays maghrébins, en Europe. Et quand, je ne sais pas, ils investissent dans ces pays-là, ainsi de suite, pendant ce temps, dans leur propre pays, le minimum manque. Voilà, donc à qui la faute? Mais si ces gens-là nous voient, nous venons dans leur pays, ainsi, on va plus chercher du travail. Voilà, c'est. Ouais, ils vont se dire, oui, effectivement, ils sont au-dessus de nous. Et vous êtes sans savoir, moi, je n'ai pas encore vu un Tunisien qui vient dormir dans la rue à Ouagadougou. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être des gens peuvent me dire, mais moi, je n'ai pas encore vu ça. Voilà, donc, merci. Ils viennent là. C'est pour venir travailler dans les bureaux ou bien ils sont des magasins.
Merci.
Après, ils partent là-bas. C'est pour aller dormir d'abord dans les rues et devenir même des manœuvres ou bien.
Merci Charles pour votre contribution. À votre avis, nous avons Youssouf Ouedraogo qui se trouve en Côte d'Ivoire. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonjour Eric, à toute l'équipe de la VOA. Je viens de suivre très attentivement Charles Bazema à qui je transfère aussi le bonjour.
Oui, votre commentaire.
Écoutez Eric, moi je pense que ce retournement tout aussi spectaculaire que ses propos incendiaires à l'encontre donc de l'innocence, de l'échec même de sa politique sociale, je parle du président Caïs, c'est la preuve manifeste, n'est-ce pas, que les pressions internationales ont fini par porter leurs fruits. Alors, le président, c'est comme dans toute forme de dictature, construit, on va dire, ce droit illégal de dicter sa personne et ses méthodes au nez et à la barre même de notre très chère Union africaine. Alors, notre position invariable est que l'Union africaine, en tout cas l'Union s'il y en a, doit demander des comptes, n'est-ce pas, aux autorités tunisiennes. Et moi, je pense que des comptes allant jusqu'à la suspension même du pays des instances de la dite Union. Qu'on nous explique la rationalité d'avoir fait subir ces violences gratuites et inhumaines aux populations noires d'Afrique subsaharienne pour finalement entamer ce virage, on va dire, à 180 degrés pour revenir à de meilleurs sentiments. Avait-il besoin de semer autant de chaos avant de brandir ces mesures, bien que je dirais finalement acceptables? Moi, je crois que non. Et dire que certaines voix africaines soutiennent cette brutalité, l'animosité, moi, je crois que... J'en suis vraiment désolé et c'est dommage parce que cela voudra dire tout simplement que jusqu'ici, certaines personnes peinent encore à comprendre le sens même de la mesure au-delà de toute considération émitouflée ou émotionnelle. Ce sentiment nationaliste-là est honteux, se comprend d'une certaine mesure, puisque pour moi, de toutes les façons, le raisonnement des personnes qui ne sont jamais sorties hors de leurs frontières nationales diffère toujours de ceux qui parcourent le monde à leur risque et péril, à la recherche du pain quotidien. Vous voyez toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui persécutées, violées, agressées, humiliées en ce moment en Tunisie, eh bien, elles sont de toutes les nationalités, y compris même des Tunisiens qui ont le malheur d'avoir la peau noire. C'est dit l'ampleur donc de cette folie irresponsable du président Caïs. Alors, le drame ici, c'est que hier, c'était le Gabon, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Demain, ça sera autour de quel autre pays qui viendra aussi étaler cette forme violente de rejet de la fraternité, la solidarité, de le vivre ensemble africain. Moi, je reconnais que l'immigration obéit à des règles auxquelles chaque migrant doit se conformer. C'est bien ce que disent les textes. L'autre réalité ici est que la particularité de l'Afrique même en termes d'humanité, il y a ce qu'on appelle la solidarité, l'hospitalité, la fraternité. Quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire reste la meilleure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, ces questions-là peuvent trouver réponse sans qu'on en soit là. Eh bien, est-ce que vous pensez que ce soit juste ou même humain d'exiger d'un réfugié, par exemple les Libyens, Soudanais, Maliens ou quiconque fuyant la guerre ou la misère sociale, de se conformer à une telle procédure pour exister? Moi, je pense qu'on peut adopter d'autres types de mécanismes pour répondre, n'est-ce pas, à cette nécessité d'accueil sans vraiment avoir à livrer ces personnes-là à la vindicte populaire comme c'est malheureusement le cas en ce moment. Et pour rejoindre ce que disait Charles Bazema, c'est à nos autorités de faire plus que ce qu'ils font ou que ce qu'ils pensent avoir fait pour que la jeunesse africaine ne soit pas aussi animée de cette volonté manifeste au prix de tout ce qui peut exister sur terre pour aller voir ailleurs. Quand moi je regarde les rapatriements, je prends l'exemple des ressortissants ivoiriens qui viennent d'être rapatriés, il y a la Guinée, il y a le Mali, et dans toute l'Afrique, quand vous regardez ceux qui ont commencé à entamer les rapatriements, par exemple ici en Côte d'Ivoire, sur le plan économique, sur le plan de la croissance, c'est anormal que des Ivoiriens se retrouvent dans des situations désespérées, dans d'autres pays. Cela est une autre révélation que, à quelque part, peu importe ce qu'on nous vante, la politique sociale demeure un échec et il faut y travailler davantage.
Youssouf, merci beaucoup pour votre contribution et bonne soirée chez vous. En Côte d'Ivoire, nous avons Sénat Dodi Kwadzo. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les habitants de la Afrique.
Bonsoir et vous avez la parole.
Ok, tout d'abord, moi, je tiens à féliciter le président tunisien pour la libération des migrants sud-africains, mais moi, je vis ça insuffisant parce que nous sommes tous des Africains. Donc, il doit faire faveur à tout le monde, que ce soit pour tous les Africains. Donc, pour ce qu'il vient de faire, ça montre le degré du racisme qu'il a envers l'Afrique noire. Donc, c'est injuste. Nous voulons la paix entre nous. Nous sommes tous des Africains. Donc, il ne faut pas qu'ils mettent la différence. Mais cette différence existe depuis des temps. Mais ça suffit. On veut la paix. Parce qu'il y a des Tunisiens aussi chez nous. Il y a des Tunisiens dans l'Afrique noire et nous, on est chez eux. Donc, ils nous traitent de telle sorte. Et que nous, si on décide de les traiter de telle sorte, est-ce que ça va les plaire? Donc, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Et s'il vous plaît, qu'il fasse cette faveur-là. Tous les Africains, pas seulement les Maghrébins, non. Donc, nous voulons que le faveur qu'il est en train de faire pour les autres, qu'il le fasse aussi de même pour l'Afrique noire. C'est ce que nous voulons. Et je crois que la paix et l'union va résister entre nous. Et ce genre de racisme va aussi disparaître. C'est ce que moi je pense.
Merci, Sénat, pour votre contribution. Nohum Traoré, il dit « Le mal est déjà fait à Abou Koulibaly. Pour ma part, c'est une bonne décision, mais après une grave dérive. » Et puis, il y a Ibrahim Lamido qui dit « L'unité africaine reste et demeure un rêve. » Voilà. Sid Mandela, c'est trop tard. Les autres pays vont réagir de la même chose avant qu'on parle d'apaisement. Nous avons aussi le commentaire de Latif.
Bonjour, c'est Latif de l'Omo Togo. À mon avis, le gouvernement tunisien fait ce qu'on appelle vulgairement le médecin après la mort. Le mal est déjà fait. D'ailleurs, si vous lisez bien le communiqué, l'idée de faire partie de la population subsaharienne n'est pas abandonnée. Donc, je pense que les gouvernements africains doivent continuer et amplifier le rapatriement de leur population et envisager les mesures de rétorsion contre le gouvernement tunisien. On ne doit pas laisser Kais Saïd faire la pluie et le beau temps. La réciprocité est un gage de paix. Être noir ne doit pas constituer un crime. Merci, VOA Afrique. Bonne émission à vous.
Merci à vous aussi, à Latif. Vous êtes à Lomé. Merci de votre contribution. Il y a Sec qui dit « Le président tunisien cherche à réduire la pression en essayant de revoir sa stratégie. Cependant, ses cartes de ce jour n'y changeront rien du tout car il a fini de prouver sa xénophobie à l'égard des ressortissants africains. » C'est le point de vue de Sec. Il y a aussi Ibrahim donc Lamido qui dit que l'unité africaine reste et demeure un rêve. Le 21 février, M. Saïed, c'est le président de la Tunisie, a affirmé que la présence de hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne était source de violences et de crimes et relevée d'une entreprise criminelle visant a changé la composition démographique du pays, mais plus tard, le gouvernement a changé de ton. Les autorités ont promis de renforcer l'accompagnement et l'assistance sanitaire et sociale aux migrants par l'intermédiaire du Croissant Rouge, tout en cherchant à lutter contre toutes les formes de traite humaine et l'exploitation des migrants irréguliers à travers une intensification des contrôles. Un numéro vert pour les résidents des pays frères africains a été créé pour signaler toute violation à leur encontre. Nous avons également le commentaire de Roméo.
Bonsoir, bonjour les auditeurs et auditrices de la VOA. Concernant la situation en Tunisie, à propos des migrants subsahariens, je m'en vais à vous dire que les Maghrébins nous ont jamais considérés en tant que leurs frères. dans leur rapport et dans leur manière de parler. Prenons le cas du Maroc la fois passée, lors de la Coupe du Monde, qu'ils remercient tous les pays arabes de les avoir soutenus. Or nous, ou bien moi qui suis ici, je supportais vaillamment le Maroc. Et après, c'est ce qu'ils ont dit. Nous n'ont jamais considéré nous qui avons la peau noire. Et ça a été toujours un problème. Si c'était que nous partons en Europe, ou bien nous sommes partis en Europe et on nous maltraite, que nous ne sommes pas de la même race qu'eux, là d'accord. Eux, c'est à cause du climat qu'ils ont la peau blanche. Et ils ne considèrent pas les Africains, ils ne considèrent pas ceux qui ont la peau noire. Et ils sont très racistes. Et c'est maintenant qu'ils vont apaiser la tension. Si de la manière ils traitent les subsahariens dans leur pays, si on les traite aussi dans nos pays comme ça, ça va les plaire. Ça va les plaire. Ils n'ont qu'à arrêter de faire ça. Et savoir que nous sommes sur le même continent et nous avons droit à la même manière de nous traiter les uns entre les autres. Moi, je n'ai pas apprécié cette situation parce que moi, je sais qu'il y a mes frères ivoiriens, mes frères béninois, mes frères togolais là-dedans. Parce que moi, je ne dis pas que je suis béninois, je suis ci, je suis ça. Où je suis togolais ici, je suis africain. Donc quand un africain maltraite un africain, moi ça me fait tellement mal. Donc je n'ai pas apprécié. Donc nous avons fait tout pour améliorer les rapports avec les autres pays subsahariens. Pour que les pays subsahariens arrivés en Tunisie ou bien arrivés au Maghreb se sentent chez eux réellement. J'en ai fini. C'était Roméo Duton. Bye.
Merci Roméo, bye et bonne soirée chez vous. On parle donc de la Tunisie. La Banque mondiale n'a pas du tout apprécié les commentaires du président tunisien, donc les commentaires publics qui attisent la discrimination, les agressions et les violences racistes et sont complètement inacceptables, a jugé le président de l'institution, David Malpass. C'était dans un courrier adressé dimanche soir à ses équipes. Et face à la dégradation et aux agressions rapportées, M. Malpass estime que la Banque mondiale n'est pas en mesure de poursuivre ses missions sur place. La sécurité et l'inclusion des migrants et des minorités faisant partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la banque. Et compte tenu de la situation, la direction a pris la décision de mettre en pause cet accord de partenariat et de retirer du calendrier la revue du conseil d'administration de la Banque mondiale prévue initialement le 21 mars et est reporté jusqu'à nouvel ordre. Nous avons le commentaire de Christian Girabé qui dit « C'est un mal nécessaire qu'il faut accepter. Nous demandons à l'Union africaine de s'impliquer pour restaurer la paix et la sécurité des étudiants et migrants qui se trouvent en Tunisie. » Après donc ce discours du président Kaïs Saïed, il y a eu condamnation par des ONG comme racistes et haineux. Des ressortissants d'Afrique subsaharienne ont fait état d'une recrudescence d'agressions, des visant et se sont précipités par dizaines à leurs ambassades pour être rapatriés. Et quelques 21 000 subsahariens sont recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière, et des dizaines ont été arrêtés lors de contrôles de policiers au faciès. De nombreuses agressions physiques ont été recensées et des migrants ont témoigné auprès d'ONG avoir été pourchassés et détroussés par de véritables milices. Concernant donc les projets qui sont financés par la Banque mondiale, ces projets financés donc restent financés et les projets en cours sont maintenus, a précisé à une source proche de la banque qui exprime des préoccupations profondes. La Banque mondiale prévient par ailleurs d'un possible ralentissement de ses actions sur place à cause de la mise en œuvre de mesures de sécurité, en particulier concernant ses employés originaires d'Afrique subsaharienne et leurs familles. La Tunisie a une longue tradition d'ouverture et de tolérance qui est encouragé par tant de personnes dans le pays, a insisté le président de la Banque mondiale, David Malpass, dans un courrier. Si les mesures prises récemment par le gouvernement tunisien afin de protéger et soutenir les migrants et réfugiés dans cette situation très difficile vont dans le bon sens, eh bien, la Banque mondiale assure qu'elle va évaluer et surveiller attentivement à leur impact. Et à l'occasion, dans Point de presse, c'était hier, lundi, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a fait part des préoccupations profondes des États-Unis concernant les commentaires du président Saïd. Il a appelé le gouvernement tunisien à respecter ses obligations au regard du droit international en protégeant les droits de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. Le secrétariat général des Nations Unies a de son côté condamné sans réserve tout commentaire xénophobe et raciste ayant pour but de nourrir la haine raciale, a insisté également lundi son porte-parole Stéphane Dujarric. Nous avons Asmaïlou en ligne. Asmaïlou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous avez la parole.
Oui, bon, selon moi, comme le gouvernement tunisien a pris la décision, pour moi, je ne prends pas ça au sérieux. Parce que d'abord, même, il n'y a pas la fiabilité entre les autorités tunisiennes et les peuples africains en général. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est à la volonté du gouvernement tunisien que ces dégâts ou bien ces mésententes entre les races prend l'effet. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore parler qu'on est en Afrique et qu'il faut maintenant distinguer la nature ou bien l'état des peaux pour pouvoir être cohabitant bien, pour rester ensemble. Donc, ce qui est que l'Union africaine elle-même devrait prendre une décision générale. Que on laisse un pays prendre sa propre décision pour dire qu'il faut une carte de séjour ou bien quelque chose. Ça, autre, ça n'a pas de favori. Il faut que l'Union africaine, étant un continent africain, l'Union africaine elle-même, elle prend une décision. Si les Africains peuvent voyager bien, cohabiter entre les habitants qui vivent entre pays et pays ou pas. À ce moment, on va prendre compte en ça. Il ne faut pas que certains pays prennent cette décision. Au fond, c'est leurs citoyens qui menacent d'autres. C'est ça, moi, je vois.
Asmaïlou, les propos du président Saïd ont semé un vague de panique parmi les migrants subsahariens en Tunisie qui font depuis état d'une recrudescence des agressions des visas et se sont précipités par dizaines vers leurs ambassades pour être rapatriés. Il y a eu déjà 50 Guinéens mercredi qui ont été rapatriés. Il y a aussi environ 300 Ivoiriens et Maliens qui ont été rapatriés samedi pour échapper à ce que plusieurs témoins ont décrit comme un déferlement de haine depuis des déclarations du président tunisien. Est-ce que tu penses que d'autres pays devraient rapatrier leurs citoyens là-bas?
Oui, oui. Nécessairement. Nécessairement, c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, l'élan que la Tunisie a pris, il ne faut pas qu'au moins un pays hasarde de laisser son ressortissant là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus confiance entre nous, Africains. Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus parler tunisien, bien malien, bien nigérien. On parle généralement africain. S'il n'y a pas cette confiance, il faut que chacun retourne chez lui. Et ensemble, maintenant, c'est une institution qui coiffe tout, qui est l'OIA, l'Union africaine, qui va prendre la décision finale. Parce qu'aujourd'hui, c'est que l'économie entre la société doit rentrer en elle. L'économie doit partir entre le peuple. Mais si c'est qu'aujourd'hui, ces effets commencent à inquiéter les gens, on voit que ça ne peut pas aller.
Merci Asmaïlou. Nous devons mettre un terme à cette édition de À votre avis. Malheureusement, le temps imparti à cette émission vient de prendre fin. Merci à Lionel Boudanilagahima qui assure la mise en onde, Eric Manila qui a été avec vous à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques instants, Le Monde aujourd'hui avec Jean-Roger.